Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Encore une fois, ravi de vous retrouver dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. À la suite des mesures arrêtées par le gouvernement pour faire face au Covid-19, bon nombre d'entreprises et des PME sont menacées de faillite. Les activités ne tournent plus comme avant, les indicateurs sont au rouge. L'incertitude a gagné certains responsables d'entreprises par rapport à leur avenir, à l'avenir de leurs activités, à l'avenir de leur société. Alors, quelles sont les mesures gouvernementales visant à aider les entreprises fortement impactées à relancer leurs activités après le Covid-19. On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. Nous avons en ligne monsieur Dieudonné Kassembo. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jody Daniel.
Bien, vous êtes vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, en charge des petites et moyennes entreprises. Alors aujourd'hui, nous avons appris que le Covid-19 a porté un coup dur à bon nombre d'entreprises. Alors, quel état des lieux vous faites des sociétés membres de la FEC par rapport à cette situation?
Oui, merci beaucoup pour votre question. C'est pas que nous avons appris, mais nous sommes en train de suivre, parce que nous vivons au jour le jour cette situation de Covid qui a affecté notre vie de manière générale. Et beaucoup plus les entreprises de la FEC, parce qu'en fait, quand nous parlons entreprises de la FEC, il faudrait faire la part des choses. Il faut comprendre que chaque entreprise a ses spécificités. Cela veut dire, par exemple, de la manière dont les conséquences peuvent être graves pour les hôtels, les restaurants, et pendant que pour, par exemple, les banques ou d'autres, ça peut être différent. Donc, c'est comme ça qu'il sera question que d'une manière générale, que nous arrivions à pénétrer un peu pour aider la population d'une manière concrète à comprendre ce que nous sommes en train de vouloir dire. Parce que aujourd'hui, avec la décision qui avait été prise, les structures qui avaient été frappées au départ, par exemple pour nous, c'était plus les entreprises qui sont dans l'hôtellerie, restaurant et café. Oui. Alors vous comprenez que elles ont fermé depuis longtemps. Elles n'ont même pas la possibilité d'organiser un service à domicile comme d'autres personnes le font. Donc c'est pour dire que ils ont des charges fixes qui sont là énormes. Ils vont avoir des problèmes de stock à devoir gérer. Ils ont un personnel à devoir payer. Et là déjà nous allons pratiquement pour eux au deuxième mois. Donc vous comprenez.
Là, c'est particulièrement pour les entreprises qui sont dans l'hôtellerie et la restauration.
L'hôtellerie et la restauration.
Oui.
Parce qu'en fait, vous savez, bon, heureusement, il y a quelques usines qui ont commencé à organiser, par exemple, certains restaurants qui ont commencé à organiser des commandes à livraison à domicile. Donc c'est juste pour contourner un peu les difficultés dans lesquelles ils sont. Mais une bonne partie de travailleurs sont à la maison. Donc vous comprenez ce que nous. Par exemple, au niveau de la fédération, ce que nous avons fait, au niveau de la FES, ce que nous avons fait, c'est de devoir préparer un fichier que nous sommes en train d'envoyer à nos membres pour qu'ils puissent nous informer pratiquement sur tous les préjudices qu'ils sont en train de subir à cause de cette pandémie.
Est-ce qu'ils ont déjà renvoyé les fiches avec...
Non, pas encore.
Pas encore.
En fait, en ce qui nous concerne, nous devrions d'abord identifier, n'est-ce pas, les différentes données que nous attendions qui nous permettraient de pouvoir savoir comment devrions-nous accompagner nos membres. Parce que vous comprenez, comme je vous ai dit à l'introduction, ce qu'il faudrait séparer les entreprises par secteur d'activité. Vous savez que, par exemple, les banques, aujourd'hui, quand nous nous parlons des préjudices, il faudrait quand même que les gens arrivent à comprendre, c'est que quand on parle de la production, les agents doivent savoir que les salaires qu'ils reçoivent, c'est pas de l'aumône. C'est le fruit, n'est-ce pas, d'une prestation réelle. Pour nous, les entreprises, nous ne sommes pas comme les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires de l'État, qu'ils aient travaillé ou pas, donc ils ont leur salaire. Mais nous, quand nous ne travaillons pas, nous subissons énormément de conséquences. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a de ceux-là, par rapport à un volume donné de production qui doit être vendu. C'est comme ça qu'ils sont payés. Mais d'autres, ils vendent des services, c'est par rapport au chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser. Ce qui fait que les agents doivent comprendre, mais ceux qui sont restés à la maison, ils sont restés à la maison, nous sommes en face d'un cas de force majeure.
Oui.
Donc il faudrait que l'entreprise s'organise pour voir de quelle manière elle va être à mesure de pouvoir payer ne fût-ce que le 2/3 du salaire à toutes ces personnes-là. Est-ce que le patron de ces entreprises dispose des moyens pour ce faire? Nous espérons, de la manière dont nous voyons que les choses se passent en Europe, où les gens reprennent déjà timidement le travail, et de la manière dont nous nous sommes en train d'observer l'évolution, n'est-ce pas, de la situation de cette pandémie au niveau de notre pays, nous prions que ça s'estompe, parce qu'en fait, quand nous comptons le nombre de morts, grâce aux différents produits traditionnels que les gens prennent, c'est ce qui fait que, bon, voilà, les cas ne sont pas tellement nombreux. Alors, nous sommes en train d'espérer que, avec les mesures des barrières qui ont été prises, ça nous permettra d'éviter l'accroissement des contaminations.
Mmh.
Parce qu'à ce moment-là, nous fondons l'espoir que le mois prochain, les gens reprennent le travail. Même si nous reprenons le travail, nous allons encaisser les coûts.
Dieudonné Kassembo, on peut évaluer les pertes enregistrées jusqu'à ces jours à combien?
Non, mais c'est comme ça que je vous dis que nous sommes en train d'envoyer les fiches auprès de nos membres qui doivent... Voilà, par exemple, ce que nous sommes en train de dire. C'est ça l'intérêt que nous avons à rappeler aux opérateurs économiques de faire partie d'une organisation patronale de leur choix. Si vous observez l'économie congolaise, vous avez près de 80% des personnes qui évoluent dans l'informel. Là, quand nous nous abordons cette matière, c'est avec un minimum de 15 ou 17% d'opérateurs qui sont membres de la FEC, des PME.
Mmh.
Mais ça ne représentera pas grand-chose. Et même avec nos membres, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous leur demandons de comprendre que les informations qu'ils doivent nous envoyer doivent tenir compte, n'est-ce pas, des états financiers de 2 dernières années. Parce qu'en fait, quand vous déclarez, par exemple, le loyer, vous savez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont des locataires. Il y a les agents qui sont à la maison, ils ne travaillent pas.
Mmh.
Mais ils sont obligés de payer le loyer. Quand bien même que le gouvernement a dit que, bon, voilà, il ne faudrait pas que le propriétaire, les bailleurs, puissent laisser les locataires un peu tranquilles. Mais il s'est fait que, en fait des comptes, les entreprises finiront par payer. Donc, nous devons comptabiliser cela. La hauteur des salaires qu'il faut payer.
Oui.
Les gens sont à la maison s'ils payent le 2/3. Mais cette hauteur des salaires doit refléter réellement les montants qui sont déclarés dans les états financiers de 2018-2019, parce que l'État à qui nous allons présenter, n'est-ce pas, les informations, va se référer, n'est-ce pas, des différents états financiers que nous leur déposons.
Des deux dernières années. Alors, Monsieur Dieudonné Kassembo, qu'est-ce qui peut être fait pour aider les entreprises après Covid à se remettre en forme?
Non, nous voulons être concrets. Nous sommes dans un environnement différent de l'Europe.
Mmh.
Nous disons aujourd'hui, vous êtes en train de suivre comment est-ce que les Européens, par rapport aux dettes qu'ils sont en train de contracter auprès des investisseurs, où c'est pratiquement la planche à billets, mais qui doivent être couvertes.
Mmh.
Mais non, pour nous, par exemple, nous voulons être sincères. Nous disons notre pays n'a pas de moyens. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de proposer? Quand nous allons identifier les différents préjudices que les opérateurs économiques ont connus, nous pourrons à ce moment-là nous dire, OK, ici, l'État, il faut reconnaître que l'État fait partie, parmi les partenaires privilégiés de nos entreprises.
Oui.
C'est comme ça que vous voyez que l'État, l'État a droit à 35% de notre résultat. C'est parce que l'État est partenaire avec nous. Donc, c'est pour dire, départ, la sécurité qu'il nous assure, le route, les hôpitaux, les écoles, nous devons verser cet argent-là. Alors, nous allons dire ceci à l'État, Voilà sur le montant. En fait, ça c'est une proposition qui n'a pas encore été validée par la base. Mais oui, nous pensons que oui, c'est ce qui pourra passer dans les discussions. Que nous voudrons faire en sorte que, par exemple, admettons, je suis la société X. Les niveaux de mes charges calculés sur le 3 mois ou 4 mois, ça me revient à $200,000 pour mon entreprise. J'ai dit, si l'État peut prendre en charge 50%, ok, ça me fait $100,000 et l'État pourra certifier. À ce moment-là, nous allons négocier de manière que nos paiements concernant les contributions patronales dans les charges sociales, ce que nous payons à la CNSS par exemple,
oui,
à l'INPP, à l'ONEM et tout le reste, on pourra nous les exonérer, nous les exempter jusqu'à à ce que nous allons terminer les 100 000 qui ont été validés, certifiés par l'État par rapport aux chiffres que nous aurons mis à sa disposition.
Voilà, là, donc c'est des exonérations, l'État va vous accorder des exonérations.
Oui, des exemptions, des exemptions pareilles. C'est vrai que ça va être un coup dur pour l'État, mais on n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas aujourd'hui attendre que l'État débloque de l'argent pour émettre aux gens. C'est ça l'intérêt que nous avons, de voir que les entreprises travaillent en toute transparence.
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà des auditeurs en ligne qui aimeraient bien vous poser des questions. Jean-Louis de Dungu et Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, comme chez nous à l'Est ici, nous sommes à la Sienne orientale, et nous vivons le PME vive de commerce transportalier. Donc, nous allons en Ouganda, tout est importé, même la nourriture, puisque la production locale n'est pas suffisante, surtout du côté sécurité alimentaire. Alors, j'ai attendu religieusement notre invité.
Monsieur Dieudonné, oui.
Alors, nous proposons, que les entreprises, le PME de nos côtés ici, de l'Est du pays, qui évoluent dans les secteurs agricoles, par exemple, qui produisent localement, puissent avoir des facilités d'accès au crédit, puisque c'est l'accès au crédit de notre côté ici, c'est un casse-tête, ça n'existe presque pas. Si le gouvernement pouvait mettre en place un fonds de garantie pour simplifier, pour assouplir un peu les critères des banques, pour que les PME évoluent dans ces secteurs de production locale, puissent accéder facilement au crédit, en fait, d'accroître leur revenu, leur production. Parce que pour le moment, là où je suis, on importe même les haricots, on importe tout, mais comme les frontières sont fermées, et on assistera à la catastrophe, non seulement de disparition de PME, mais aussi à la sécurité alimentaire des populations. Mais les PME sont disponibles pour accroître les revenus, mais l'accès au financement, c'est presque inexistant de nos côtés ici, parce que c'est un peu impossible. C'est pourquoi je voudrais ça, c'est ça ma préoccupation.
Merci Jean-Louis de Dungu. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jordi, bonjour également à l'invité. Je pense que ce sujet, il est pertinent parce que...
Alors Jérémy, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour aider les entreprises à reprendre leurs activités?
Oui, avant toute chose, je voudrais juste en évoquer trois aspects parce que je pense que nous avons les entreprises étatiques et non étatiques. Vous savez que ici chez nous, en République démocratique du Congo, pour la plupart, œuvre en informel. Voilà aussi les conséquences. Alors, vous savez, monsieur Jody, je vous donne un peu un exemple. Vous savez que il y a beaucoup d'entreprises, par manque de fonds considérables, certaines, contractent des crédits, n'est-ce pas, dans une des banques, par exemple. Mais je pose maintenant la première question à l'invité. Qu'adviendra-t-il maintenant? Ou quelle serait la position des banques? Chez qui les employés de certaines des entreprises ont eu à contracter des dettes. Et, par exemple, c'est une entreprise non étatique. Maintenant, que l'employeur n'est pas en mesure de pouvoir payer ce dernier. Maintenant, ils ont contracté des dettes à la banque. Est-ce que pendant cette période ici de confinement, pendant cette période exceptionnelle, Est-ce que l'État congolais ne pouvait pas, dans ses prérogatives, n'est-ce pas, instruire à toutes les banques, par exemple, donc c'est-à-dire d'accorder une mesure de grâce, peut-être ajouter le mois supplémentaire pour ceux-là qui ont constaté, parce que ce n'est pas un secret, beaucoup d'employés dans chacune des entreprises, certainement, ont eu à contracter des dettes, des crédits dans une des banques.
Est-ce que donc vous demandez que les banques puissent
accorder de moi?
Oui.
Oui, ça c'est un fait. Alors, deuxième point, je voudrais aussi en parler. Vous savez que après le confinement, je pense que beaucoup d'entreprises, certains travaillent vraiment dans des manières non coordonnées. Vous savez qu'une entreprise ordonnée et organisée, vous ne pouvez pas avoir
Jérémy, soyez bref,
sans avoir un compte considérable en banque pour pouvoir résoudre le problème lorsqu'il arrive arbitrairement. Parce que vous ne pouvez pas compter sur la production sans pouvoir compter sur ce que vous avez vous-même épargné en banque pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre tous les problèmes lorsqu'il y a des impératifs qui arrivent arbitrairement. Ça, c'est un fait. Oui, monsieur Jody, je vous écoute.
D'accord. Donc, votre proposition, c'est que les banques puissent prolonger l'échéancier qui a été fixé pour ceux qui ont les crédits. Qu'on leur donne encore un peu plus de temps.
Évoquer une autre manche, hein. Oui, monsieur Zy.
Voilà. Rapidement, parce que les autres attendent. Vous êtes nombreux
à vouloir participer. Et aussi, vous savez que quand nous regardons, par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a des écoles qui sont, n'est-ce pas, sous couvert de l'État, mais il y a aussi certaines écoles, par exemple, qui œuvrent en privé. Maintenant, quel est le sort actuellement? Si vous regardez les tableaux, que ce soit à Kinshasa et dans d'autres provinces, surtout à Kinshasa où il y a le plus centre de cette maladie. Et alors, regardez un peu la vie que mènent certains enseignants dans des écoles, où vraiment c'est des secondes zones.
Voilà. D'accord, Jérémy. Merci Jérémy. On va donner la parole à Moïse de Dungu. Bonjour Moïse. Moïse, vous êtes à Dungu, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Alors,
est-ce que vous m'écoutez?
Oui. Quelle est votre préoccupation rapidement?
C'est Moïse. Oui, écoutez, monsieur, je voulais juste partager par rapport à cette émission pour dire, écoutez, pendant cette période de crise, plusieurs PM sont tombés à défaillir, voulais-je dire. Je ne sais pas si l'État pouvait, après cette période, instaurer le système de bancarisation par-ci par-là pour octroyer des prêts à ces PM. Voilà un peu ma petite préoccupation.
Voilà, octroyer des prêts aux PME pour leur permettre de relancer leurs activités. Maître Edmond, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour Alice. Oui. Bonjour à tous les intervenants et également à tous les États de la France de la Terre.
Alors, comment aider les entreprises à relancer leurs activités? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Maître Edmond, vous avez la parole. Oui, allez-y, on vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Par rapport à la thématique du jour, il convient de souligner que moi, en tant que juriste d'entreprise, depuis le 26 mars, on a réfléchi dans cette question parce qu'on savait que après le Covid, en tout cas, il y aura un problème sérieux en ce qui concerne les entreprises. Bon, en ce qui me concerne, moi, je voudrais dire ceci. L'État a le principal et permanent des ressources groupées dans la fiscalité, donc l'impôt, le paiement de l'impôt et des taxes. Mais également, l'État a d'autres ressources temporaires. C'est-à-dire que dans cette question, moi j'estime que l'État, ayant des types de ressources recettes, il est capable de sacrifier certaines ressources recouvrées auprès des entreprises, notamment l'impôt professionnel, les acomptes provisionnels, la TVA, la taxe sur la pollution, la taxe rémunération annuelle, ainsi que l'impôt mobilier. Donc l'État peut alléger les paiements des impositions à charge des entreprises afin de leur permettre de se réveiller de ces profonds sommeils occasionnés par le COVID-19. Par exemple, je crois que dans 3 jours, l'État doit recouvrer l'impôt sur les bénéfices, l'exercice de 2019 auprès des entreprises, pendant ces moments, les entreprises commerciales sont fermées. Voilà. Donc, sont fermées. Il y a certaines entreprises qui ne fonctionnent pas, les entreprises aériennes, fluviales et consorts. Donc, à notre humble avis, moi, je pense que ce que le gouvernement peut faire pour aider les entreprises à se relancer après le COVID-19 est que l'État puisse vers un allègement ou une certaine une suspension de paiement de certains impôts.
D'accord.
Et ça pourra quand même aider les sociétés ainsi que les entreprises individuelles à pouvoir se relancer après le COVID-19.
Merci, Maître Edmond de Mbandaka. Belbiche, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Comment aider les entreprises à relancer leurs activités après le COVID-19? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Voilà, merci. Alors, moi, je pense que l'État congolais devrait avoir jusqu'à 80% d'entreprises de portefeuille, pouvant lui permettre de faire face aux fléaux économiques et faire face aussi à des lois imposables dans les soucis de produire les effets positifs, parmi lesquels je peux citer la tranche glorieuse des deux présidents libéraux. Bon, après ça, aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Parmi les 5 mesures prises par l'État pour sauvegarder les intérêts, nous prenons une qui est prise par l'État pour une enveloppe de 50 millions de dollars disposée aux agences économiques via les banques privées à un taux d'intérêt trop bas. Il serait mieux que l'État intervienne par son trésor public personnifié pour avoir la capacité de l'État congolais. Mais avant que je pose mes 3 petites questions, j'aurais à proposer ce qui suit. L'État congolais doit adopter un projet de loi de finances rectificative pour adapter le budget à la conjoncture. Deuxièmement aussi, l'État congolais doit diminuer le train de vie des institutions de l'État, la présidence, le Sénat, l'Assemblée nationale, voire même le gouvernement. Trois aussi, la Banque centrale du Congo devait agir avec prudence sur les mesures pour éviter qu'il n'y ait pas ni l'inflation ni la désinflation. Et aussi pour terminer, nous devons tenter une aventure de révolution agricole en vue d'atteindre une sécurité alimentaire. Maintenant, aujourd'hui, en ce qui concerne mes 3 petites questions, j'aurais souhaité poser à M. l'invité, M. Dieudonné, quels seraient les résultats si l'État congolais finançait les entités économiques par la planche à billets ou soit par la politique du Sénégal monétaire? D.D. Est-ce que l'État congolais a un trésor public qui a une personnalité juridique de droit? Si oui, quelle est la différence entre le trésor public qui a une personnalité juridique et aussi la banque centrale? Merci, M. Jody.
Bien, M. Dieudonné Kassembo, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, Jody. Il y a 5 questions qui nous ont été posées. Et la première, c'est, ça venait de notre ami qui est à Dungu.
Voilà, c'est...
N'est-ce pas?
Oui.
Je réponds à sa question avec beaucoup de respect, parce qu'au fait, aujourd'hui, avec ce qui se passe, de par cette pandémie, nous avons compris que nous devons repenser notre modèle économique et nous devons tout faire pour renforcer la production nationale, la production locale, avec des produits de base et avoir des bonnes stratégies, n'est-ce pas, de manière à ce que nous ayons une certaine autonomie alimentaire et même de santé. Vous comprenez, par exemple, les gens sont en train de spéculer par rapport à certaines trouvailles pour des produits qui peuvent régler les problèmes de corona comme au Madagascar.
Oui.
Et dont les produits sont partis de notre pays, par exemple. Donc tout ça, je me dis, aujourd'hui, il faudrait que les gens, les personnes comme notre ami là, au lieu que nous puissions continuer à attendre les haricots qui viendraient...
De l'Ouganda, tous les produits qui viennent de l'Ouganda.
Nous devons voir dans quelle mesure du possible nous devons produire localement. Alors nous sommes, nous, en train de faire un effort pour identifier tous les différents secteurs d'activités agricoles que nous devons soutenir ensemble avec les gouvernements et voir de quelle manière nous pourrons désigner des champions qui pourront animer, n'est-ce pas, ces secteurs qui permettront demain que nous puissions être autonomes. Parler comme ça vaguement, c'est tout un problème. Parce que vous savez qu'hier, nous avons tous ces différents produits. Par exemple, nous n'importions pas beaucoup de riz parce que nous consommions les riz qui provenaient des Bumba. Aujourd'hui, nous sommes même au point de devoir importer des jus pendant que nous avons autant de fruits avec des produits qui pourrissent le long de nos routes. Donc ça, c'est un problème des responsabilités auxquelles nous tous nous sommes confrontés. Parce qu'il ne faudrait pas que d'un côté il y ait des acteurs et de l'autre côté, n'est-ce pas, des observateurs.
Mais faut Dieu donner. Alors, Jean-Louis a proposé ceci. Il dit, ils sont des transporteurs. Ils font le commerce transfrontalier entre la RDC et les pays limitrophes.
Ils ont besoin des crédits, voilà. Des fonds de garantie.
Tout
et
à fait.
Accès au crédit.
Tout à
mais
fait.
Mais le problème, c'est de savoir, je crains, je ne sais pas, je connais pas trop bien notre ami, mais est-ce qu'il fonctionne dans une activité où il est connu, il est identifié? C'est ça le souci que nous avons. On va, pour connaître les montants, Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand on dit 500 000 milliards de dollars, c'est-à-dire que tous les opérateurs sont répertoriés. On connaît la situation des déclarations de chaque opérateur. Et l'État peut se permettre de dire avec les statistiques connues, de dire aujourd'hui, je peux mettre sur la table autant d'argent. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés dans le sens dont il est en train d'expliquer. Nous, nous sommes en train de nous battre pour obtenir à ce que nous arrivions à créer, à mettre en place un fonds de garantie. Je crois qu'avec l'État, nous y arriverons. Donc, vous comprenez un peu, c'est dire que nous sortons des situations politiques assez difficiles. Mais la chance qu'on a eue, on est passé dans un schéma de transition beaucoup plus calme. Nous espérons qu'après, n'est-ce pas, après cette période de pandémie, nous allons nous asseoir avec les gouvernements pour que nous nous regardions en face, que nous ayons des propositions concrètes, notamment celles qui viennent de nous faire.
D'accord.
Monsieur Jérémy à Lubumbashi, il a relevé un problème, les problèmes que nous avions déjà posés auprès du gouvernement par rapport au crédit que les gens avaient contracté auprès des banques.
Oui.
N'est-ce pas? Là, c'est beaucoup plus le cas des employés qui travaillent et qui avaient à contracter des crédits, mais comme ils ne travaillent pas et les entreprises ne sont pas à mesure de le payer comme il se doit pour qu'ils soient à mesure de payer.
Oui.
Mais l'État avait presque déjà répondu positivement au niveau de la Banque centrale à cette question. Cela veut dire qu'au cas par cas, vous prenez par exemple quelqu'un, un employé qui avait contracté un crédit comme une entreprise et qui avait un rythme de remboursement qui était soutenu. Alors, au cas par cas, devant sa banque, la banque peut dire, écoutez, bon, monsieur, nous allons repenser autrement votre crédit. On peut restructurer le crédit de manière à ce que nous ne puissions pas vous étouffer, étant donné que pendant que la situation était bonne, vous payez correctement.
Oui.
Mais la banque peut se retrouver en face d'un opérateur comme d'un employé qui avait contracté un crédit, il ne payait pas. Et là, même si la personne sollicitée, on va comprendre que c'est pas seulement par le fait du corona que vous ne savez pas payer, mais déjà, pendant que la situation était bonne, vous ne payez pas du tout. Mmh. Donc, les banques sont disposées par rapport à cela. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont proposé à ce que les intérêts soient payés, les principales pourraient être reportées dans une structuration des crédits qui pourraient être mis en place.
D'accord.
Il a soulevé les problèmes des manques de ressources pour relancer l'activité.
Monsieur Dieudonné, oui, je reviens à vous tout à l'heure. On va faire un tour à présent à Goma, dans la province du Nord Kivu.
On n'a pas fini la première série des questions.
Si, oui, je reviens à vous le temps de suivre ce reportage que nous propose notre concert de Goma.
Okay,
oui, par rapport aux nombreux... Oui. Elle nous dit que Rosalie Zawadi nous dit que de nombreux entrepreneurs se préparent déjà à relancer leurs activités. Vu à l'état actuel de leurs entreprises, ils espèrent recevoir un coup de pouce du gouvernement en termes des facilités des caisses. Les détails avec Rosalie Zawadi.
Patrice Binois, entrepreneur dans les secteurs du numérique, explique dans quelle mesure son entreprise a été affectée par cette crise du Covid-19.
La crise du Covid nous a affectés, je dirais indirectement, parce que nous offrons des solutions numériques, des logiciels de gestion pour les clients. Alors, ce sont nos clients qui sont les plus touchés et ça nous affecte indirectement. Donc, parce que notre business model, c'est que nous donnons un logiciel. Les gens l'utilisent et ils payent mensuellement une redevance comme abonnement pour l'utilisation de nos logiciels. Alors vous comprenez avec moi que si le client final ne fonctionne pas normalement, donc il ne sera pas honoré ses paiements. Alors on a dû suspendre certains recouvrements pour des raisons évidentes, donc ce ne sera pas possible que nous puissions faire entrer autant de cash qu'on le faisait avant. On a été obligé de mettre une partie de notre personnel en chômage technique. Ça va faire un mois parce qu'on ne sait pas continuer à faire tourner la machine comme avant.
Vous avez combien de personnes dans votre entreprise?
On a 12 personnes. 7 sont maintenant en chômage technique parce que nous travaillons sur base des contrats. Donc une équipe qui était en train de développer un logiciel dont le contrat est suspendu par les clients. Donc, on ne sait pas pourquoi les garder aussi longtemps que les clients ont suspendu lui-même son projet. Donc.
Pour lui, la première chose à faire pour aider les entrepreneurs à se relancer après cette pandémie sera la facilité des caisses.
Parce que tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de cash. Ça veut dire que même si les activités se relancent, nos clients ne seront pas à mesure de nous payer en premier. Donc, si on a une facilité de caisse, donc un crédit express, ça peut faciliter la relance. Parce que même au niveau des institutions financières, ils ont dit suspendre tous les mouvements d'octroi des crédits à cause de cette incertitude qui est créée par la crise du corona. Bon. Dans d'autres pays, c'est plus facile parce que les gouvernements sont en train de mettre de l'argent à la disposition des entrepreneurs. En crédit, bien sûr, ce ne sont pas des cadeaux, pour booster en fait. Mais ici, chez nous, donc, même les crédits normaux, les banquiers, ils ont dit suspendre. Ça fait assez que ça devient compliqué de survivre. Donc, pour relancer, on aura besoin d'injecter encore du cash dans les systèmes pour que ça puisse tourner en attendant que les clients commencent à payer.
Pour sa part, Elie Bigaboua, de l'entreprise Perfect, spécialisée dans la production des meubles, pense que les entrepreneurs qui se relanceront très vite après les COVID-19 sont ceux qui auront mis à profit ces temps d'arrêt pour penser aux innovations dans leurs affaires, ce qu'il fait déjà avec ses quelques collègues.
C'est un fait qui est arrivé pas seulement pour notre entreprise, mais le monde entier, si je peux le dire. Et on a trouvé ça d'une manière ou d'une autre comme et aussi notre opportunité. Pour nous d'abord de nous concentrer, comme il n'y a pas assez de commandes que nous avons, c'est que nous mettons maintenant en place, nous voyons des nouvelles conceptions. Et après, juste cette crise, nous pourrons déjà proposer de nouvelles conceptions, de nouveaux produits à tous nos clients.
Madame Zawadi Mangolopa encadre les femmes qui font du petit commerce. Et en ces temps de crise, nombreuses se retrouvent déjà dans la précarité, ayant consommé leurs capitaux. Et celles qui maintiennent leurs activités ont du mal à réaliser des bénéfices dans les contextes actuels. C'est pourquoi elle les invite à se reconvertir dans d'autres activités et sollicite en leur faveur l'appui du gouvernement.
Nous sommes en train de les montrer que réellement, même s'il y a blocage dans des commerces, mais ce n'est pas la fin. Nous sommes appelés aussi à faire des petites agricultures qui vont nous aider encore à recommencer. Puisque ce qui est là aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que nous allons encore recommencer à zéro. Et pour recommencer, nous sommes en train de les former et les montrer comment est-ce qu'elles vont travailler en faisant des petites agricultures, même dans des parcelles. Puisque, par exemple, aujourd'hui, on était avec 5 femmes et les montrer comment est-ce qu'elles doivent planter les manioc dans des sacs. À ce qui concerne le gouvernement, la première chose est de voir comment est-ce qu'il va sécuriser, par exemple, les champs qui sont là vers Mugunga, puisqu'il y a de ces femmes qui ont des champs, mais ne sont plus capables d'aller là, puisque lorsqu'elles sont en train de cultiver les champs, ce sont les bandits qui viennent récolter. Deuxième chose est voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi financer ces femmes, puisque ce sont des femmes qui sont maintenant, aujourd'hui, à la base du développement de leur famille.
Bien que moins nombreux, certains domaines d'activité n'attendent que la fin du COVID-19 pour se remettre automatiquement sur les rails. C'est le cas des entreprises de l'événementiel. Même si nous n'avons aucun revenu aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous serons débordés par les demandes des clients, surtout les mariés, tout juste après le COVID, nous a dit le responsable d'une entreprise spécialisée dans les décors des salles des fêtes. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
À Goma, 65.2 FM.
Merci Rosalie Zawadi pour ce reportage. Comment aider les entreprises à relancer leurs activités après le Covid-19? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Dieudonné Kassembo, vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, en charge des petites et moyennes entreprises. Monsieur Dieudonné, vous avez suivi le reportage. Un mot à dire là-dessus?
Ouais, c'est dire que tout tourne autour de l'accompagnement dont les opérateurs économiques ont besoin. Vous comprendrez que, et la réponse aussi, je continuerai à revenir sur ces soucis de devoir encadrer tous ces opérateurs, de pouvoir les identifier, et parce qu'en fait, quand on doit aller vers un accompagnement des banques, vous comprenez par exemple le premier intervenant qui fournit un service des logiciels.
Oui.
S'il a des relations soutenues avec des banques, parce que c'est ça le problème que nous avons souvent, que les gens doivent comprendre que le plus tôt que vous commencez une activité, vous devez travailler d'une manière soutenue avec les banques. Toutes les recettes que vous faites, vous allez les déposer à la banque, et il y a un mouvement, une certaine visibilité de ce que vous faites. Et demain, quand il va se poser ces problèmes-là de fonds de roulement pour les fonctionnements, l'État, dans ce que nous avions dit tout à l'heure, vous vous rappelez, nous avons parlé de fonds de garantie. Parce qu'en fait, pour avoir les facilités des caisses,
les banques vont dire, écoutez, monsieur, quelles sont les garanties que vous mettez à notre disposition?
Oui.
Alors, si par exemple l'État mettait, il disait, par cette période, nous disons, nous prenons en charge tel montant, par rapport aux opérateurs qui sont connus, parce qu'ils font des déclarations, sinon, ils payent les patentes au niveau local et compte tenu de leur chiffre d'affaires. À ce moment-là, l'État peut les accompagner. Vous avez suivi l'intervention de l'autre dame qui est en train de parler de la petite activité. La petite activité, nous devons la gérer. Parce qu'en fait, toutes ces personnes-là qui réalisent les petits commerces, les petites affaires, les petites agricultures,
oui.
C'est-à-dire qu'ils répondent aux besoins réels de la société. Je vais vous surprendre quand j'ai dit, par exemple, les gens qui font les taxis, les gens qui font les motos que nous avons ici à Kinshasa. Vous savez que ce genre-là ne tourne pas non plus. Mais c'est cette activité. Il y a eu des gens qui ont sorti de l'argent pour acheter des quêtes.
Oui.
Il y a eu des gens qui ont acheté, qui ont sorti de l'argent pour acheter des motos. Mais vous allez vous retrouver parfois avec certaines personnes qui ne gagnent pas. Il n'y a pas le retour sur investissement.
Oui, Monsieur Dieudonné, Maître Edmond de Mandaka nous a appelé. Il dit que l'État a des sources de revenus, les impôts, les taxes. Il dit que l'État devrait alléger les impositions, par exemple.
Non, mais là, l'État a déjà fait un effort. Par exemple, vous savez que il y a la TVA pour toutes les importations des produits de première nécessité, des premières nécessités qui doivent rentrer. L'État a demandé qu'on puisse suspendre le paiement de la TVA. C'est comme ça que je suis d'accord avec cet ami de Colosi qui a demandé à ce que l'on puisse faire une loi de finances qui puisse corriger, n'est-ce pas, puisse corriger le budget de l'État par rapport, n'est-ce pas, aux réalités actuelles liées à cette pandémie. Parce qu'en fait, l'État va se retrouver et qu'il va manquer beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, tout simplement par le fait qu'il est appelé à faire beaucoup d'efforts. Mais pour ce faire, il faudrait quand même qu'il se formalise avec les textes juridiques qui le mettraient beaucoup plus à l'aise par rapport à la nouvelle politique qui suivra après cette crise. Donc, il y a des efforts que l'État a déjà consentis, et l'État continue à attendre encore les propositions des opérateurs économiques. C'est comme ça que nous travaillons ensemble avec nos autres collègues des autres organisations patronales pour que nous puissions essayer de ramasser le plus de problèmes. Et nous avons même demandé au call à nos amis des call centers.
Oui.
Nous sommes en train de travailler là-dessus de manière que eux, ils puissent recevoir les appels des différents opérateurs qui travaillent en électron libre pour qu'ils aient au moins la possibilité de poser les problèmes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Radio Capi, nous ramassons de gauche à droite un certain nombre de problèmes qui sont posés avec des pistes de solutions. Mais c'est pas tout le monde qui sera à mesure de pouvoir le faire. De la manière dont on avait ouvert ces numéros verts pour permettre aux gens de communiquer autour des Covid, étant donné que les propositions des pistes de solutions par rapport au Covid doivent aussi être prises et doivent aussi être gérées, c'est comme ça que nous, au niveau de la FEC, nous avons pensé que nous allons soumettre cela de manière qu'on intègre dans ces call centers, qu'on ait des numéros qui pourront être ouverts pour permettre aux gens de donner, de communiquer les différents problèmes et donner de moyens à notre gouvernement pour pouvoir répondre aux préoccupations des opérateurs économiques.
Et un numéro vert à l'intention des entrepreneurs.
À l'intention des entrepreneurs, de toutes les personnes qui évoluent et qui ne sont pas gérées, encadrées par une organisation patronale, parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent poser leurs problèmes. Mais là, au moins, ce numéro vert permettra que toutes ces informations qui vont être récoltées iront vers le gouvernement et ensemble avec le secteur privé. Et ils pourront travailler pour trouver des pistes et des solutions concrètes qui permettent qu'à notre économie, que nous tenions quand même, nous tenions le coup en rapport avec cette crise.
Papi Kambwe nous a écrit depuis Kalemie. Il dit dans ce cas, l'État doit avoir des dispositions en ce qui concerne la réduction de certaines taxes afin d'aider les entreprises à se redresser après le corona. Et les managers doivent songer à renforcer le système marketing et recourir à l'innovation, car beaucoup vont perdre leurs anciens clients et d'autres en gagneront. Donc c'est la proposition de Papi Kambo et de Kalemi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Non, l'intérêt que les opérateurs économiques ont d'adhérer aux organisations patronales, c'est par solidarité. Parce que vous comprenez aujourd'hui, c'est dire que vous comprenez que toutes ces démarches, tiennent compte de ce souci de solidarité, d'accompagnement des opérateurs. Et nous avons beaucoup d'opérateurs qui évoluent dans l'informel. C'est comme ça que nous devons faire un effort pour que tous ces mondes-là viennent vers l'informel. Ils comprendront qu'il y a beaucoup d'avantages à obtenir, à gagner par rapport à leur position de travailler dans un environnement où ils sont gérés et encadrés par certaines structures. Aujourd'hui, c'est bien beau, nous sommes en train de parler des difficultés. Mais si le pays avait beaucoup de réserves de par le fait de paiement des taxes et impôts, on s'est identifié, par exemple, il y a 10 000 opérateurs économiques. Si chacun pouvait payer ne fût-ce que 100 dollars, le pays aurait eu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, la plupart des gens continuent à évoluer dans l'informel. Je me dis, cette crise permettra quand même que, en dehors du fait qu'on a dit qu'on repense notre système économique, mais nous-mêmes aussi en tant qu'opérateurs, que nous voyons de quelle manière. J'apprécie, n'est-ce pas, la proposition de l'ami qui dit des nouvelles stratégies marketing et tout le reste. Bah, oui. Des nouvelles stratégies managériales aussi. Des nouvelles stratégies managériales. Comment est-ce que je dois gérer mes affaires aujourd'hui? Donc, il faudrait que nous permettions à notre État d'avoir les statistiques, les informations dont il a besoin pour nous accompagner.
Voilà, donc vous demandez aux entreprises qui évoluent en électron libre d'adhérer aux structures qui existent, aux organisations.
C'est leur choix.
Oui.
Et à ce moment-là, regardez par exemple, vous avez vécu ici, à un certain moment, quand on avait dit qu'on fait les confinements de la ville de la Gombe. Alors, on a demandé aux gens de passer auprès de leur organisation patronale pour avoir des macarons, avoir des badges.
Oui.
Mais il y a des gens qui ont commencé à venir, tous les gens que nous avons vus devant l'hôtel de ville là. C'est pour dire que beaucoup n'étaient pas connus, parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils pouvaient aller pendant qu'ils avaient intérêt de se retrouver en ville. Ceux qui étaient membres de l'AFEC, tous, chacun a eu soit 5 badges, 10 badges, ainsi de suite. Mais tous ceux qui étaient presque là devant l'hôtel de ville, ce sont des gens qui évoluent à l'électron libre. Ils vont commencer à expliquer leur situation et tout. Nous voudrons que nous puissions accompagner et encadrer les amis qui recrutent le personnel.
Voilà. On va, monsieur Dieudonné, on va accueillir des auditeurs. Kachai de Kanyoka et Piero de Lumbashi. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question ou vos propositions?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. J'ai quelques propositions, voulais-je dire, parce que la situation est catastrophique, monsieur Jody, depuis que le corona a été déclaré en RDC. Ici, je vois par exemple, parce que bon, l'invité insiste sur les exonérations, même certains auditeurs qui ont parlé bien avant que moi parlent aussi des exonérations, mais l'État congolais avait déjà pris des mesures d'exonération de certaines entreprises aux différentes impôts et taxes pour qu'ils puissent un peu bien survivre. Mais ils ont pris ces mesures, mais les mesures n'ont pas été accompagnées par les mécanismes d'exécution. Ici en province, toutes ces mesures-là n'ont pas été respectées parce qu'on continue toujours à demander le paiement des différentes taxes, des différents impôts à certains opérateurs économiques. Nous avons constaté la semaine passée que certaines entreprises continuent à payer. Même s'il y a eu exonération, il y a certaines écoles qui louent, par exemple les écoles privées, qui louent quelque part. Alors, les bailleurs exigent toujours le paiement des loyers.
D'accord. Alors, la proposition, c'est qu'est-ce que vous avez à proposer alors?
La proposition, c'est que le gouvernement central coopère avec les gouvernements provinciaux pour que les mesures prises soit exécuté au niveau local. Parce qu'on a pris des mesures, ça, Kinshasa, monsieur Jody. Si vous venez ici en province où nous...
Là-bas, c'est autre chose.
C'est autre chose qui s'est fait. Alors, moi, je préfère qu'on puisse envoyer une commission de contrôle au niveau de toutes les provinces pour vérifier si, normalement, les gouvernements provinciaux ont...
Applique ou pas les exonérations accordées par le gouvernement. Merci Kachai. On va donner la parole à Piero de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité. Moi c'est Piero Pagnan, je suis à Lumbashi. J'aimerais d'abord revenir sur ce que l'invité nous a parlé, ce qu'il vient de parler. Si je suis très bien c'est-à-dire, lui, il nous a dit que des entreprises et parapatiques qui sont dans le pays payent difficilement les taxes. C'est-à-dire, s'ils parvenaient à payer 100 dollars, peut-être, on pouvait se ressaisir. Moi, je m'inscris à faux comment. Ma fille, ma petite fille, qui a que 3 ans, continue à payer la TVA même aujourd'hui. Lorsque je pars payer les Pampers, là, c'est l'État, c'est la fête qui donne le prix. Dans les prix, là, il a calculé même la TVA, c'est-à-dire même ma fille est en train de payer la TVA, qu'il nous donne les effets. Moi, je prends les effets ici à Lubumbashi. Il y a beaucoup d'entreprises. Si nous voyons la production, nous pouvons, oui, pas quand nous acquisons plus l'État, il faut savoir que lorsqu'on acquise les prix d'être profond, il faut savoir si ce n'est pas sa corde qui est courte. Nous, ici à Lubumbashi, ce que nous faisons, nous n'avons pas la volonté, nous n'avons pas la volonté. Avant ici, ce sont les entreprises
Pierrot, qui ne sont Pierrot, pas de l'État. Et d'accord. Quelle est la question? Quelle est la question? Passez à la question directement.
Oui, la question que je voulais poser aujourd'hui est de savoir quelle est l'importance de l'inspection du travail lorsqu'on est en train d'écarter d'autres agents sans les avoir payés. Cela est basé par l'insuffisance de la production ou la baisse de la production ou c'est comment? Qu'est-ce que l'inspection peut nous dire sur base de ça?
Merci. Platini Mbombo, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Je dis bonjour, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question?
Bon, voilà. Merci beaucoup aujourd'hui. Je crois que merci pour l'invitation. Aujourd'hui, je ne serai pas trop kilométrique. Je voudrais quand même vous saluer pour la thématique du jour. Aujourd'hui, je fais allusion ici dans la province de l'Équateur, la ville de Mbandaka, là où moi je suis. Je fais une allusion ici, là où moi j'habite, précisément c'est Mbandaka. Aujourd'hui, je crois que il y a une entreprise ici, ce qu'on appelle le Cordebo. Comme vous le savez très bien, la province de l'Équateur, ville de Mbandaka, est entourée de l'eau. Et ici, souvent, on fait exporter toujours le riz, haricots, tout ça. Là. Il y a une entreprise ici, ce qu'on appelle Cordebo, qu'on attend que le paysan arrive avec le riz, et on fait maintenant faire éloigner ça. Mais il se pose un sérieux problème. Il y a des entreprises, mais quelque part, ils sont bloqués, parce qu'il y a ce qu'on appelle les taxes, parce qu'on dit toujours, trop d'impôts, tu l'impôt. Il y a un mauvais fonctionnement. Les entreprises veulent travailler, mais quelque part, ils sont bloqués. Parce que, comme vous le savez très bien, tous les frontières sont bloquées, il n'y a pas tellement d'activités. Et cette entreprise, là, maintenant, je vous parle, donc il n'y a pas tellement de travaux à faire parce qu'il y a beaucoup de taxes pour lesquelles, quelque part, ils sont vraiment un peu bloqués. Alors, moi, c'est que moi, je voudrais avoir bien l'idée sur l'invité. Je ne sais pas si le gouvernement congolais, surtout, je fais allusion dans les programmes de 100 jours du chef de l'État, peut mettre en place un système dans les politiques d'appuyer. Surtout les ONG, les entreprises publiques, privées qui meurent partout à travers le pays.
Oui.
Je ne sais pas quels sont les mécanismes que l'État peut mettre, surtout dans le cadre du 100 jours du chef de l'État. Voilà un peu ce que je voudrais justement qu'on trouvait par rapport à cette émission d'aujourd'hui.
Voilà, qu'est-ce que l'État peut faire pour appuyer les entreprises? Voilà, c'est d'ailleurs le thème de l'émission d'aujourd'hui. Comment aider les entreprises à relancer les activités après le Covid-19? On en parle avec M. Dieudonné Kassembo, vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo. En charge des petites et moyennes entreprises. Merci de continuer à nous appeler et nous allons souffler un peu en musique et on va se retrouver après les informations avec notre invité, Monsieur Dieudonné Kassembo.
Poignard, mille carcans, donc ma vérité s'éclate. Son peinard dans l'air camp, bande loser, il nous flatte. Politique, démagogique, psychologiquement on craque. Ma musique est dramatique, sincèrement, arrêtez vos blagues. Le pouvoir s'arrache, c'est ça leur slogan. Il se cache derrière ces mots, autant de leurs discours n'est éloquent. Ça fait longtemps qu'on est noyé dans nos larmes. Aucun sauvetage n'est envoyé secourir nos âmes. Ils nous blâment sans tenir compte de nos âges. Le mur ont des oreilles comme Léonis, les mots ont deux visages. Révolutionnaire à la fidèle Castro, aucun fonctionnaire ne se retrouve à l'air rouge, trop c'est trop. L'aérodrome, la vérité, ne plus faudra parachuter. Nani Ali Banga, même Koukoumbe doivent chuter. Ce n'est que le début du commencement. J'ignore mauvais. vécu alors que mon âme n'est pas dans les commandes. Ils se demandent comment la vérité nous ment. Et à quoi faire nous dire que les apparences nous mentent. Les règlements de ces couplets nous recommandent qu'à la fin de ces derniers qu'on se demande où ça nous mène. La politique démagogique, ils nous font danser au même rythme et pas de leur musique. Où ça nous mène. Ils vont cacher de meilleurs propos. Ils prétendent dire que nous sommes riches, en sommes vrais. Où ça nous mène. La politique démagogique, ils nous font danser au même rythme et pas de leur musique. Ils font cacher de meilleurs propos. Ils prétendent dire que nous sommes riches, en sommes vrais. Où ça nous mène. Où ça nous mène. Même les intellectuels sont criminels. Je vois que spirituel des phénomènes. Ils sont tous pareils. Même la juridiction perd de vision. Faudra le lunette à Marius Morel. Le voisin nous crache dessus et il nous blâme. Ça fait longtemps qu'on a blessure. Les trônes calmes qui peuvent essuyer nos larmes. La majorité ou l'opposition qui se mettent au service de la nation. La précaution est de passer aux élections. Malheureusement la tricherie est un produit de l'alimentation. Les questions se posent, personne suppose, propose une réponse, mettre pause à toutes ces causes. Tellement que le mensonge devient permanent. Devant la vérité on se perd maintenant. Les règlements de ces couplets nous recommandent qu'à la fin de ces derniers qu'on leur demande. Où ça nous mène. La politique démagogique, ils nous font danser au même rythme et pas de leur musique. Où ça nous mène. Ils font cacher de meilleurs propos. Ils prétendent dire que nous sommes riches, en sommes vrais. Où ça nous mène. La politique démagogique, ils nous font danser au même rythme et pas de leur musique. Où ça nous mène. Ils font cacher de meilleurs propos. Ils prétendent dire que nous sommes riches, en sommes vrais. Dans le royaume de l'idiotie, les imbéciles sont rois. Mon pays veut que le Messie vienne réclamer nos droits. On est en deuil, le Koulouna ont bousillé la loi. La page d'accueil de nos souffrances, 3W assassinat.3. Pas besoin de mercenaires, pas besoin de placards. Ils jouent au macaque, au massacre, voilà nos mercenaires. Ils tendent nos nerfs, ils perdent l'honneur, ils sont malhonnêtes. Le meilleur meurt, il prend la place et joue les marionnettes. Nos gouvernants n'aiment que de l'or et respirent la monnaie. La diplomatie congolaise qui fait la dépanner. Les dangers de la rhétorique ne partent dans ma conscience. Je cours derrière le risque, même Lamborghini me fait confiance. Trop d'offense avec détresse, je chante ma vertu. Ton poignard me blesse, l'épée de mon sourire têtu. Ils nous importunent, ces impérialistes. Le soleil n'éclaire plus depuis qu'on est dans leur blacklist. La politique démagogique, ils nous font danser au même rythme et pas de leur musique. Où ça nous mène. Il faut...
Copie Service, deuxième partie de l'émission. Merci à vous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui de comment aider les entreprises à relancer leurs activités après le Covid-19. Monsieur Dieudonné Kassembo, vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, en charge des petites et moyennes entreprises, est l'invité d'Okapi Service aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs qui ont déjà appelé pour intervenir dans cette émission. Et merci à tous les internautes qui ont réagi par rapport à ces sujets. Il y a plusieurs réactions, nous allons lire quelques-unes. Tout à l'heure, Sylvain Bauguer est à la mise en onde, Tati Mapoukou à la réalisation, Marcel Ngomombalakeba sur la coordination de cette émission qui présente Jody Daniel Nkeshama.
Radio Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Comment aider les entreprises à relancer leurs activités après le Covid-19? Nous savons qu'à la suite des mesures arrêtées par le gouvernement pour faire face à cette maladie, bon nombre d'entreprises et des PME sont menacées des faillites. Les activités ne tournent plus comme avant, les indicateurs sont au rouge. L'incertitude a gagné certains responsables d'entreprises par rapport à la reprise normale de leurs activités. Alors, quelles sont les mesures visant à aider les entreprises fortement impactées à relancer leurs activités? On en parle aujourd'hui. Nous avons en ligne Benjamin de Kananga, Divin nous appelle de Dungu et Simon de Kananga. Benjamin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bienvenue, on vous écoute. Benjamin, vous avez la parole. Quelle est votre préoccupation? Désolé, il n'est plus en ligne. On va accueillir Divin depuis Dungu. Bonjour, Divin.
Bonjour, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au thème du jour?
Bon, j'ai une question à poser à l'invité.
Oui.
Quel sera l'effort des entreprises privées après le mouvement de coronavirus? Et quel sera l'effort des entreprises privées?
Merci. Simon de Kananga, bonjour.
Ouais, bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour également à tous les auditeurs.
Hein. On vous écoute, Simon.
Ouais, merci beaucoup, Jody. C'est un sujet très intéressant. Moi, avant de poser ma question, j'avais d'abord une suggestion parce que c'est comme vous l'avez souligné, nos entreprises courent vraiment un risque hein, de faillite parce que avec ce qui se passe, hein, les gens ne savent plus circuler et puis même dans les entreprises, on ne sait plus acheter des marchandises. Mais vous voyez, il y a aussi une autre technique que les entreprises peuvent utiliser actuellement avec des marketing numériques. Parce que si vous remarquez, par exemple, ici à Kananga, beaucoup des entrepreneurs se plaignent qu'ils ne savent plus acheter, par exemple, les marchandises à la Gombe parce que tout le monde est confiné pour pouvoir amener ces marchandises-là ici. Mais si on appliquait, par exemple, la technique de marketing numérique, c'est-à-dire on livre les marchandises à domicile à partir des e-commerce, c'est-à-dire avec des sites web de commerce, on peut faire à ce que quelqu'un fait des commandes et puis l'entreprise, surtout de grandes entreprises là, ils s'organisent de manière à ce qu'on puisse ravitailler tous les clients à partir de chez eux. Cette manière-là aidera à ce que malgré qu'il y ait confinement, mais les gens seront au moins ravitaillés avec leur entreprise. Et une autre solution sera à ce que on doit revoir au moins les émoluments de nos leaders, de nos députés ainsi que les sénateurs. Vous voyez, ils reçoivent beaucoup de sommes. Si peut-être ils avaient une bonne volonté en ce moment ici, on pouvait d'abord réduire même à 50% leurs émoluments. Et le reste d'argent là peut aider à ce que l'État puisse subventionner toutes les entreprises là pour qu'ils puissent savoir au moins comment relever leurs défis. Parce que vous voyez, il y a dans d'autres pays, par exemple en Europe ou en Amérique, l'État quand même a subventionné d'autres entreprises. Alors, qu'est-ce que cela ne peut pas aider à ce que ça se fasse aussi ici au Congo?
D'accord.
Alors, la question que je peux poser à l'invité dans le sens que, imaginons qu'aujourd'hui, l'État puisse opter pour pouvoir subventionner les entreprises. Je ne sais pas, on peut commencer par quelle entreprise? Parce qu'il y a beaucoup
d'accord,
d'entreprises,
il y a beaucoup d'entreprises, bien sûr. Merci, merci Simon, on va donner la parole.
D'abord à subventionner.
D'accord, merci, on va donner la parole à Shadrack Mbujimayi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auteurs de la radio Capi.
On vous écoute, Shadrack.
Oui, Monsieur Jody, il s'est déclaré que après Covid 19, même l'État congolais, les entreprises, les individus, tout et tout, nous serons dépouillés par rapport à cet ennemi qui est le Covid 19. Mais néanmoins, qu'est-ce que moi je vais demander aux entreprises? À cela ne tienne bien que c'est là, moi j'estime qu'ils peuvent avoir de l'aide du gouvernement, de banques, de groupes d'intérêts économiques et ainsi de suite. Mais s'il s'avère que cette aide-là ne leur parvienne pas, moi j'estime que les sociétaires et même les actionnaires, ils peuvent bien redéfinir leur objet social, afin de voir comment, peut-être par quelle manière, ils peuvent peut-être recommencer. Parce qu'il est évident d'éclairer que cet ennemi ici de Covid-19 pourra dépouiller tout un chacun de nous. Et si peut-être le gouvernement ne le fait pas, c'est pas peut-être par mauvaise foi, il sera peut-être par manque de moyens, voire même de banques, ainsi de suite. Voilà le pourquoi moi j'estime que aux actionnaires, oui, aux actionnaires, les sociétaires, ainsi de suite. Ils peuvent tout ça redéfinir, voir dans quelle mesure ils peuvent se relancer.
Merci.
Et aussi par rapport, oui, et aussi pour terminer,
oui.
Pour terminer, j'estime que pour ceux-là qui seront, comment remercier le chômeur, bien entendu, ils peuvent tout ça adopter un plan de reconversion, voir dans quelle mesure il faut se procurer un autre emploi, la vie continue. Voilà un peu ma manière de voir les choses, j'ai dit et je vous remercie.
Merci Shadrack. Soupi Nyembo de Kalima, bonjour. Soupi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à notre invité.
Oui, rapidement, quelle est votre préoccupation?
Oui, pour moi, je voulais seulement donner une contribution suite à ce sujet d'aujourd'hui. Pour moi, je voulais dire ceci. On devrait doubler le programme des entreprises pour essayer de récupérer le retard qui a connu cette période de pandémie.
D'accord, merci beaucoup Soupi Nyembo. Nous allons retrouver notre invité tout à l'heure, Monsieur Dieudonné Kassiembo. Il est déjà en ligne. Monsieur Dieudonné, bonjour.
Oui, bonjour.
Ou rebonjour, rebonjour parce que vous étiez, on était déjà ensemble. Alors, vous avez suivi les différentes réactions. Avant cela, il y a Kachai de Kanyoka qui nous a dit qu'au niveau, le gouvernement a déjà pris mesures des exonérations pour les entreprises en cette période, mais dans les autres provinces, ce n'est pas le cas. Ces mesures ne sont pas appliquées.
Je commence par lui pour lui dire une chose, que en tant qu'opérateur économique, il doit savoir qu'il n'a pas seulement que des obligations. Il a aussi des droits. C'est vrai qu'à un certain moment, départ, les différentes propositions qui avaient été faites par le gouvernement, nous avons continué à travailler avec le gouvernement de manière à ce que ces différentes mesures soient couchées sous forme des instructions et que le gouvernement, les différents ministères étaient en train de prendre. Alors, comme lui a l'information, donc il avait intérêt à ce que de pouvoir expliquer aux personnes qui étaient venues lui réclamer, n'est-ce pas, les paiements de ces taxes, quand bien même qu'ils soient en province. Il faudrait qu'ils puissent considérer que, vous savez, il y a des gens qui connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont réellement. Parce qu'au fait, pour que le pays fonctionne, les salaires qu'on paye aux enseignants, aux militaires, aux policiers et tout, c'est de par les impôts et les taxes que nous payons. Donc c'est pour dire que les gens qui viennent, ce n'est pas qu'ils ont plus de droits par rapport à nous autres qui sommes en train de créer du travail. Nous créons du travail, nous payons les impôts et nos taxes. Cela veut dire qu'il y a cette responsabilité de redevabilité vis-à-vis de personnes qui viennent, ils doivent nous respecter. Donc cet ami qui est opérateur économique, gentiment, il va rappeler quand même à cette personne qui vient demander la taxe l'application de certaines mesures, l'exécution de certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement central. Donc, c'est vraiment dommage. S'il faisait partie d'une organisation patronale, il pouvait rentrer auprès de l'organisation patronale qui allait plaider maintenant pour les comptes de tous les opérateurs qui étaient frappés par ce genre de choses. Parce qu'en fait, au niveau d'organisation patronale, ils vont directement rencontrer, n'est-ce pas, l'autorité provinciale pour discuter et défendre la cause des opérateurs économiques. Il y avait une autre question de notre ami Pierrot de Lubumbashi,
oui.
N'est-ce pas, en rapport avec les taxes, certaines entreprises qui payent, d'autres qui ne payent pas. Ici, moi, je pense qu'il y a un problème de civisme fiscal. Civisme fiscal, dans le sens que il est en train de relever le fait de paiement des TVA que les gens devaient réclamer et déclarer. Lui, c'est très bien, comme il est en train, en achetant par exemple les pampers, c'est pour sa fille, il paye la TVA parce qu'il est repris. Mais c'est pas tout le monde qui déclare la TVA qu'il récolte pour l'État. Il y a ces problèmes-là de civisme fiscal, c'est ce que j'étais en train de dire. Notre pays, c'est pas correct que nous ayons des petits budgets de 4 milliards ou 5 milliards. Ça, ce sont des petits budgets qui ne correspondent pas à notre pays. C'est-à-dire que nous tous, nous devons travailler. D'un côté, il ne faudrait pas qu'il y ait des observateurs et des autres acteurs. Donc, il faudrait que nous tous puissions être conscients pour dire qu'on doit donner les moyens à notre pays. Donc, et il a soulevé les problèmes des agents qui sont licenciés sans procédure. Que font les inspecteurs du travail? Bon, là, je me dis...
Voilà, c'est qui est vrai, pendant cette période, beaucoup risquent vont perdre leur travail.
Non, mais c'est dire qu'il y a une procédure, non, monsieur, je dis.
Oui.
Cela veut dire, pour une entreprise normale, avant de licencier,
il y a une procédure à suivre. On saisit toujours l'inspection du travail conformément à sa situation dans laquelle on se trouve. C'est pour, je reviens encore sur le problème des obligations et des droits. On n'a pas seulement que des obligations, on a aussi des droits. Quand vous présentez votre dossier correctement et que les inspecteurs du travail viennent constater le reste, ils peuvent vous aider pour que vous puissiez déposer, mettre la clé sous le pinceau. Ou bien alors ils peuvent dire non, voilà ce que nous pouvons faire par rapport à cette crise, vous aider pour que vous ne puissiez pas fermer. S'ils se rendent compte qu'effectivement la situation est grave, c'est un cas de force majeure et que vous n'avez pas le choix et tout le reste, ils vont vous donner la procédure que vous allez suivre pour mettre les gens, pour licencier les agents. Mais tous ceux qui font, hein, qui licencient les gens sans respecter la procédure,
oui,
ça c'est dans la violation de la loi, c'est pas normal. On n'encourage pas des gens qui se comportent de la sorte.
Voilà, et puis il y a Simon de Kananga qui nous dit les entreprises devraient adopter une stratégie marketing numérique, vendre en ligne par exemple, comme les clients ne peuvent pas venir vers eux, les entreprises peuvent, les gens peuvent passer les commandes en ligne et puis bon, on vient livrer chez vous à la maison.
Nous saluons l'initiative, c'est vrai que déjà ici à Kinshasa, il y a des gens qui ont commencé, il y a quelques entreprises qui ont été créées dans ce sens, ça crée de l'emploi, vous comprenez ? Et ça résorbe le chômage. Donc, ce sont des initiatives à encourager. Nous, nous sommes de l'avis qu'avec cette crise, c'est souvent pendant la période des crises que les gens cherchent à trouver des nouvelles choses et qu'on repense à une nouvelle manière de se comporter dans la vie dorénavant.
Mmh.
Donc, nous saluons parce qu'en fait, ça va faire des nouvelles entreprises qui vont être créées et que nous attendons. C'est ce que l'État veut voir, qu'il y ait beaucoup d'entreprises. Quand il y a beaucoup d'entreprises, on recrute le chômeur, augmentation des taxes, et de l'autre côté, il y a moins de pression fiscale qui pourra être effectuée sur les minimums des personnes d'entreprises qui sont connues et identifiées.
Bien, nous allons faire un tour à Lubumbashi où notre confrère Jean Gandou nous parle de l'impact du Covid-19 sur les entreprises minières. Suivez.
Depuis l'avènement du Covid-19, l'économie de plusieurs pays en a subi le coup. Le Haut-Katanga et le Lualaba, dont l'économie repose essentiellement sur le secteur minier, n'en sont pas épargnés. La Chine passe pour le pays d'exportation de minerais congolais qui les redistribue par la suite. À noter aussi que la plupart des entreprises minières qui sont dans ces deux provinces sont des entreprises à capitaux chinois. Il était donc difficile pour que les minerais congolais, notamment le cuivre et le cobalt, soient écoulés. Conséquence, certaines entreprises ont non seulement pas réduit drastiquement leurs activités, mais aussi leurs effectifs. À l'heure actuelle, il y a des minerais qui étaient déjà produits et qui prenaient le chemin de la Chine, mais avec l'avènement du Covid-19, ils ne sont jamais arrivés à destination. D'autres entreprises minières continuent leur production dans l'espoir d'une éventuelle reprise des activités. Pour un expert en la matière, après la reprise des activités, il faudra beaucoup de temps à plusieurs entreprises pour se relever. L'accompagnement de l'État congolais sera d'une importance capitale. Il n'y a pas que les mines. Le secteur hôtelier est aussi concerné. À Lubumbashi, certains hôtels sont en manque de clients. Les voyages en provenance de certains pays ne sont pas organisés. La location des salles ne s'est fait presque pas à cause des mesures prises par les autorités de ne pas voir plus de 20 personnes réunies. Ailleurs, les prix des chambres sont revus à la baisse pour attirer la clientèle et ça ne marche toujours pas. L'argent ne circule pas, nous a indiqué un hôtelier qui voit ses affaires tourner au ralenti. Là aussi, certains travailleurs sont mis en congé technique. Dans les secteurs alimentaires, les maisons commerciales qui dépendent en majeure partie des importations sont aussi frappées. Pire encore, les francs congolais continuent à se déprécier par rapport au dollar américain aux grandes dames des importateurs. Comme on peut le voir, le Covid-19 produit des conséquences multisectorielles. Les responsables des entreprises ne caressent qu'un rêve, la fin rapide de la pandémie pour un retour à la normale des activités. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean Gandou. Directement, je m'en vais lire la réaction d'un internaute, Junior Mungongo. Il dit, après Covid-19, l'État peut principalement procéder à la subvention et à l'exonération, mais aussi en luttant contre l'augmentation du taux de change, l'inflation. La Banque centrale du Congo doit refinancer les banques commerciales et celles-ci, à leur tour, doivent donner des crédits aux entreprises à faible taux d'intérêt. La NAPI doit créer un climat des affaires paisible pour avoir un environnement sain pour ces entreprises. Junior Mungongo, étudiant en sciences économiques à l'université de Lubumbashi. Monsieur Dieudonné Kassembo.
Oui, bien, monsieur Jeudi. Donc c'est très bien. Donc nous venons de suivre les commentaires de notre ami qui est à Lubumbashi par rapport aux activités de Lubumbashi beaucoup plus. Je vais faire un commentaire sur le secteur minier.
Oui.
Moi je me dis, c'est là encore la question que nous nous disons toujours, il faudrait que nous apprenions, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on va observer sûrement la baisse du prix de nos matières, de nos minerais, n'est-ce pas, dès qu'on va répondre, et ça va se répercuter sur notre trésorerie. Donc il faudrait quand même que nous réfléchissions à moyen terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous commencions à transformer la transformation des non-minerais ici, par exemple, pourquoi pas pour la fabrication des câbles ou bien des batteries, parce qu'en fait, c'est tout ce que le Chinois font avec nos minerais qui vont chez eux. Pourquoi on ne ferait pas aujourd'hui avec le ZELCAF, la zone de libre-échange économique, n'est-ce pas, que nous arrivions à attirer des investisseurs ici pour que qu'on puisse transférer la technologie dans notre pays. Nous qui avons de minerais, nous avons des matières premières qu'on utilise dans la fabrication des produits finis. Il faudrait tout simplement une bonne politique qui pourra attirer des investisseurs ici pour pouvoir implanter dans notre pays la production de certains produits finis que nous serons à mesure de pouvoir exporter aujourd'hui à travers le monde. Mmh. Avec la main d'œuvre congolaise qui ne coûte pas tellement cher et les avantages compétitifs dont nous nous disposons. Donc il y a ce que nous puissions réfléchir et travailler là-dessus. Nous avons suivi parmi les propositions sur que l'État doit subventionner et les exonérations. Déjà là, même avant que le Covid n'arrive, nous avons déjà ces problèmes avec la loi de finances qui avait été prise pour cette année. Voilà par exemple que pendant que nous sommes en train de demander qu'on puisse revoir des politiques qui puissent attirer des investisseurs, mais on était en train de surcharger la TVA, n'est-ce pas, sur tous les projets bénéficiaires de code des investissements. Comment voulez-vous que les gens viennent investir dans un pays et ils vont payer de la TVA et qu'ils ne seront pas réclamés, récupérés après 4 ans ou 5 ans? Donc là, tout ça, ce sont des choses que nous avons mises sur la table, que nous allons devoir discuter avec les gouvernements pour l'intérêt du développement de notre pays.
Voilà, donc il y a eu plusieurs propositions. Il y a Alain Bourdois qui dit qu'il faudra renforcer, d'après lui, il faut octroyer des crédits à taux d'intérêt nul aux entreprises. Et cela va les aider à éponger les effets pervers de cette crise financière.
Ouais, mais c'est là l'intérêt de ces fonds de garantie dont nous avons parlé ici. Oui. Parce que les problèmes aussi, on octroiera les crédits qu'aux entreprises qui sont connues par les banques. Je vous ai dit au début de l'émission que nous avons beaucoup d'entreprises qui évoluent dans l'informel. Il y a cet intérêt pour que les gens comprennent, qu'ils puissent repenser leur manière de gérer leurs affaires, qu'ils prennent beaucoup plus contact avec les banques commerciales, de manière à ce que quand ils vont se retrouver devant des cas comme cela, c'est pas la dernière crise qu'on aura connue dans la vie de nos affaires. Donc, il faudrait déjà que les gens puissent commencer à penser sur cette manière de faire, travailler avec les banques, être identifié, adhérer à une organisation patronale de son choix. À ce moment-là, par solidarité, il va y avoir beaucoup de choses que l'État pourra faire. Aujourd'hui, notre pays, notre gouvernement est en difficulté pour savoir réellement qu'est-ce que c'est dont il peut mettre sur la table pour accompagner les opérateurs économiques. Parce que les statistiques sont difficilement obtenues. À un certain moment, vous avez vu, les ministères de PME étaient en train d'identifier les opérateurs économiques, PME. Mais combien d'opérateurs se sont identifiés? Parce que c'était une identification en ligne. Une identification en ligne, mais ils ne l'ont pas fait. Alors aujourd'hui, pendant la crise, c'est tout le monde qui veut l'accompagnement du gouvernement. Mais de quelle manière ça va se faire?
Oui.
Il y a un autre qui a dit qu'on risquerait de donner des aides, des dons qui ne vont pas arriver. Mais ça va, bon, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Pour des entreprises qui sont connues, identifiées, qui fonctionnent, qui sont encadrées par des organisations patronales, je crois que les choses vont se faire de la manière la plus transparente possible.
Oui. Bien, on va accueillir deux auditeurs, Albert Kotolo de Mbandaka et Safari, depuis Iga Barrière, en Ituri. Albert Kotolo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question, monsieur Albert?
Ouais. Ma préoccupation est la suivante.
vraiment les sujets très très intéressants dans le sens que ça contribue dans la conjoncture de notre pays ou la conjoncture actuelle. Mais d'après moi, le malheur n'est que nous, les Congolais, nous ne pensons pas aux Congolais, mais nous pensons aux intérêts des autres qui sont les étrangers. Là, la plupart des entreprises au Congo, ce sont les entreprises étrangères, ce sont les étrangers qui bénéficient beaucoup par rapport à nous. Qu'est-ce que nous, la population congolaise, nous bénéficions même à 90% sur les entreprises. Le problème est que, on va songer si la population congolaise, après ce Covid-19, quelles seront les mesures qui mettraient vraiment la population congolaise à bon état. Mais nous songeons directement, le gouvernement va appuyer les entreprises pour que les entreprises fonctionnent un peu bien après le Covid-19. D'après moi, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire, nous allons songer à la population. La population, c'est la population qui est à la base de toutes ces entreprises, de toutes ces sociétés. Dans le problème de songer à la population, nous avons des différentes maladies qui sont encore là. Malheureusement, que le Covid-19 domine, quelles seront les vies de la population congolaise après le Covid-19.
Merci. Merci, Albert. On va donner la parole à Safari depuis Gabarrière. Bonjour.
Bonjour à vous, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Safari?
Ok, monsieur le journaliste, nous ici à l'Est, on a tous peur. Hein. On a vraiment peur dans nos ventres pour la situation causée par ce Covid-19. Ben alors moi, je pensais à ceci. Je ne sais pas si j'avais bien suivi la fois passée. Il me semblait que le gouvernement avait pris une décision pour sauver des entreprises comme bar, des cafés, je ne sais pas, terrasses. Alors j'aimerais savoir pourquoi ces décisions n'ont pas eu lieu jusqu'à ce jour pour sauver juste la situation des terrasses, des bars comme ces entreprises là devaient carrément fermer leurs portes. Voilà, c'est ça ma préoccupation.
Merci. Dieudonné Kassembo.
Oui, donc, M. Jody, vous comprendrez que c'est vrai que je suis très heureux de voir que nos frères et sœurs... Bon, il n'y a pas de sœurs. Il n'y a pas de question des dames.
Ah oui. Jusque-là, aucune dame n'a appelé dans...
Aucune dame. Pendant que ce sont des personnes très entreprenantes dans ce qu'elles font, mais ça serait super que ne fût-ce qu'une seule puisse poser la question.
Alors nous invitons les dames qui nous écoutent, appelez, le standard est ouvert, appelez au 081-890-6394. Allez-y, monsieur Dieudonné.
Pour sauver les entreprises, elles ne vont pas rester chez elles, n'est-ce pas, sans devoir écrire pour poser les problèmes. L'État ne va pas mettre les paquets et commencer à dire quelles sont les entreprises. À vous, je donne 100 000, 50 000 et tout. Nous avons vu pendant la période de pillage. C'est-à-dire que les entreprises avaient écrit, ils avaient saisi le gouvernement par l'entremise, n'est-ce pas, de leur organisation patronale.
Oui.
Et les discussions ont continué jusqu'au point qu'il y a eu des accords qui avaient été pris à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. Pour sauver les entreprises, l'État, les gouvernements doivent les connaître. Les gouvernements doivent savoir quels sont les préjudices, quelle est la hauteur des préjudices qu'ils ont subis. C'est comme ça que nous avons dit, pour ceux qui sont identifiés, qui font partie, qui appartiennent aux certaines organisations patronales, ils vont être gérés dans ce sens, mais les autres, avec le numéro d'appel que le call center pourra mettre à leur disposition, nous pourrons nous organiser pour répertorier les différents problèmes, les différents préjudices qu'ils ont subis, que nous mettrons à la disposition de notre gouvernement, pour voir dans quelle mesure du possible il peut aider les entreprises qui sont réellement en difficulté.
Mmh.
Il est en train de soulever les problèmes. J'avais commencé de parler de Kedge et de moto.
Oui.
Mais ces gens, aujourd'hui, la difficulté sera, ce sont des gens qui fonctionnent comme s'ils étaient dans la jungle. Pendant qu'ils utilisent les routes...
Ils sont pas identifiés, ils sont pas répertoriés.
Ils sont pas identifiés et tout le reste.
Oui.
Pendant que vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont sorti leur argent. Moi qui vous parle, quand j'ai commencé mes affaires, j'avais commencé par avoir des taxibus. Vous savez, vous mettez, admettons, 50 000 pour acheter les moyens de transport. Vous faites vos calculs rapidement, vous vous dites, dans une année, il va y avoir retour sur financement.
Oui.
Mais vous allez vous rendre compte que la première semaine, vous avez des entrées. Mais après, c'est l'argent du chauffeur et tout le reste, ce sont des problèmes et tout.
Oui.
Mais finalement, je me suis dit, mais je piquais des crises de tension. J'avais décidé carrément de vendre le taxibus en question. Tout simplement parce qu'il faut organiser tout ce secteur.
D'accord, monsieur Dieudonné, on va faire un tour à Goma où on va écouter le point de vue d'un entrepreneur qui s'appelle Joël Tembo. Il est directeur de Kivu Entrepreneur, un incubateur d'entreprise. Il nous donne son point de vue par rapport à ce qui doit être fait pour aider les entreprises à relancer leurs activités après le Covid-19. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Okapi.
C'est vrai que la plupart des entrepreneurs que nous accompagnons sont soit directement touchés ou indirectement touchés par les effets de cette pandémie mondiale du coronavirus Covid-19. Et moi, mes conseils sont à trois niveaux. D'abord, c'est au niveau des entrepreneurs, c'est de ne pas croiser les bras. C'est vrai, certains entrepreneurs sont obligés d'être en chômage pendant cette période, mais c'est le moment de penser à des innovations. Donc, un entrepreneur qui est directement affecté et qui n'est pas en activité devrait beaucoup penser à cela. Pour les entrepreneurs qui sont chefs d'entreprise, de ne pas être distraits, de penser vite à un plan de redressement de leur prévision annuelle, de façon à ce qu'il y ait révision à la baisse de certaines lignes budgétaires, par exemple les lignes salariales, parce que les entreprises n'auront pas la possibilité de payer ce qui est prévu, la renégociation de certaines échéances. Mais pourquoi aussi ne pas bien négocier à la baisse certaines charges comme le loyer et consort dans la mesure du possible. Et à troisième niveau, c'est de penser à changer d'activité si cela est possible. Donc les entrepreneurs devaient être souples pour penser aux activités qui sont vraiment fonctionnelles actuellement. Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte solution au problème. Et les entrepreneurs donc devaient penser aux solutions aux problèmes que nous vivons actuellement.
Là, c'est au niveau des entrepreneurs eux-mêmes. Mais est-ce que vous avez, je ne sais pas, des suggestions à proposer au gouvernement pour pouvoir donner un coup de pouce à ces entrepreneurs qui pensent déjà à se relancer à la fin du Covid-19?
Oui, il faut dire que si le gouvernement n'intervient pas, ça sera vraiment, vraiment très dur pour les entrepreneurs de se relever après cette période. Parce que non seulement cette période est trop dure à vivre pour des entrepreneurs qui voient soit leur chiffre d'affaires chuter sensiblement, soit qui voient leurs activités arrêtées, surtout ces entrepreneurs dont les secteurs sont directement touchés par la fermeture d'activités. Par exemple, les entrepreneurs qui sont dans la sous-traitance, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine du transport aérien, maritime et terrestre, où il n'y a pas de mouvement entre différentes provinces. Ces entrepreneurs ont vraiment besoin du soutien de l'État, et cela à différents niveaux. D'abord, nous avons besoin des facilités fiscales. Donc, il y a des entrepreneurs qui ne sauront pas honorer leurs promesses. Vous savez, le système fiscal en RDC, c'est un système déclaratif, vous devez déclarer. Et donc, certains seront peut-être obligés de déclarer néant pour certains impôts, mais il va falloir vraiment qu'il y ait une préparation des services qui gèrent les impôts par rapport à cela. C'est préparer à recevoir certaines déclarations néant des entrepreneurs qui sont totalement touchés. Il y a d'autres impôts que vous devez directement payer. Je donne un exemple. Il y a une échéance fiscale ici au 30 avril, vous avez l'impôt sur les bénéfices de l'année passée. Donc, c'est non négociable. Donc, vous ne pouvez pas négocier cela. Si vous ne déclarez pas et vous ne payez pas les 30 avril, vous êtes frappé des pénalités. Donc, pour cela, nous voudrons vraiment qu'il y ait des mesures de clémence en faveur des entrepreneurs dont la trésorerie a été très affectée et qui ne seront pas sacrés de ces obligations-là. Nous n'avons pas suivi une quelconque mesure dans ce sens-là, mais il est vraiment important que le gouvernement prenne des mesures en faveur de ces entreprises-là. C'est déjà une échéance qui tombe d'ici 4-5 jours. Donc, nous attendons vraiment ces mesures de la part du gouvernement. À l'autre niveau, c'est au niveau vraiment d'un soutien financier aux entrepreneurs pour la relance. Certains entrepreneurs sont en train de consommer leur capital. Ils vont se retrouver après la crise du Covid, ils ont tout consommé, ils ont une trésorerie zéro. Ils n'auront presque pas de fonds de roulement. Donc nous voulons vraiment que le gouvernement puisse, à travers les institutions financières, mettre des lignes de crédit spéciales qui vont aider les entrepreneurs à se relancer après cette crise. Et cela va permettre encore à tous ces entrepreneurs qui sont très affectés de se relancer. Et nous voulons surtout que le gouvernement puisse vraiment recenser les activités qui sont très touchées. Parce que lorsqu'on prend des mesures et qu'on ne sait pas catégoriser qui est touché à tel niveau par rapport à l'autre, on risquera de ne pas savoir à qui apporter du soutien. Donc nous voulons vraiment que le gouvernement puisse vraiment recenser ces entrepreneurs qui sont affectés et qu'il y ait vraiment une cellule au niveau du gouvernement qui va prendre des mesures appropriées pour ces entrepreneurs-là. Parce que pour moi, un entrepreneur qui connaît la faillite, c'est plusieurs familles qui vont vraiment tomber dans la pauvreté. Parce que pour nous, un entrepreneur moyen, c'est 5 à 10 emplois créés. Et un emploi, c'est une famille. Donc un entrepreneur qui connaît la faillite, c'est 5 à 10 familles qui vont vraiment être directement affectées. Donc il est indispensable que notre gouvernement puisse prendre cette question parmi ses priorités pour que cela puisse ne pas aussi avoir un impact sur la situation macroéconomique du pays.
Bien, merci. Joël Tembo, directeur de Kivu Entrepreneur, qui était au micro de Rosalie Zawadi. Monsieur Dieudonné Kassembo, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit?
Oui, j'apprécie, au fait, en résumé, c'est que nous puissions, que l'État, l'intervention idéale, en dehors de ce que nous avons dit sur l'accompagnement, c'est réduire un peu la pression fiscale sur les entreprises. Parce qu'au fait, vous comprenez, pendant que nous sommes en train de réfléchir ici, des voies et moyens, comment arriver à aider les opérateurs à face à cette crise et tout, mais il y a aussi des fonctionnaires qui n'attendent que les déconfinements pour qu'ils puissent, ils réfléchissent comment reconstituer leurs finances. De par la pression qu'ils vont devoir exécuter par les contrôles, les tracasseries et les pénalités exagérées.
Oui.
Parce qu'en fait, vous savez, la plupart des problèmes qu'on a parfois quand on est en train d'accuser l'État, c'est pas l'État directement, ce sont des individus. Où vous avez des responsables qui ne pensent que quand on lui confie la responsabilité, ce sont les contrôles. Pourquoi au niveau parfois de certaines provinces, les autorités provinciales ne savent pas penser, repenser leur politique pour voir comment est-ce que, au lieu de créer des taxes, mais réfléchir pour produire, amener les opérateurs comme la population à devoir produire, créer de nouvelles activités. C'est ça les grands soucis que nous avons. Et aujourd'hui, là, c'est ce qui fait que les gens continuent à se plaindre. Trop d'impôts. Tu l'impôt. Trop des taxes. Pour les gens, on leur confie des responsabilités. La première chose, c'est tracasser les opérateurs et tout le reste. Nous pensons qu'il faudrait que l'État, après cette période de pandémie, nous sommes en train de prier que ça se termine, que l'État puisse accompagner les opérateurs économiques. Et que nous-mêmes aussi, que nous puissions aussi nous interpeller par rapport au civisme fiscal. Parce que c'est vrai que vous sollicitez l'accompagnement du gouvernement, mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons aussi nous-mêmes pour que l'État vienne nous accompagner? C'est comme ça que par moment, vous avez besoin des informations pour pouvoir introduire votre requête au niveau du gouvernement. Et les gens ne sont pas transparents. Ils vont se mettre à traîner et puis à crier que l'État ne fait rien. Mais pendant que, en toute transparence, nous demandons qu'ils mettent à notre disposition des informations, ils ne les font pas. Donc tout ça, c'est dire qu'il faudrait que nous-mêmes, nous puissions faire un grand effort pour que nous mettions tous les moyens pour que l'État puisse nous accompagner.
Bien, avant de terminer cet entretien, on va faire un tour à Bounia, en Ituri, où le secteur hôtelier également est frappé, et tourne au ralenti, le personnel est en congé technique. On va avoir les détails dans ce reportage de notre confrère Jean-Claude Loki.
Les activités tournent au ralenti dans certains hôtels ici à Bounia. Des agents interrogés ce vendredi attribuent cette paralysie aux mesures des restrictions décrétées par les autorités du pays pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Une grande partie du personnel ouvrier a été renvoyé à la maison en vue de faire face aux difficultés de trésorerie. À l'hôtel Musco, par exemple, où nous sommes rendus, ainsi que le restaurant, sont quasiment déserts. Nous y avons trouvé quelques agents, dont les cuisiniers et des serveurs. La plupart des agents ont été mis en congé technique, renseignent les gérants de l'hôtel. Difficile de supporter toutes les charges pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Suivez Mathieu Bagouma qui exprime ici sa désolation.
L'hôtel, ce sont des visiteurs qui viennent d'ici, par là, ceux qui viennent de Kinshasa, ceux qui viennent dans des autres provinces, aussi à l'extérieur du pays. Mais actuellement, depuis que le corona est entré, nous n'avons plus même de visiteurs qui viennent d'ici par là. Cela vraiment nous fait des négativités toujours dans toutes les activités. Et c'est le manque à gagner.
À quelques mètres de là se trouve l'hôtel Garibouni. C'est le même décor que nous trouvons. Quelques clients qui sont quand même visibles dans les parages. Et pour les gérants, la situation devient insupportable. Toutes les activités sont pratiquement à l'arrêt, faute des clients. Difficile de savoir si les quelques travailleurs retenus pourront être payés, s'interroge le gérant Christophe Mandrou.
Ce n'est pas normal parce que parmi nos agents, ils sont à la maison. Il n'y a pas d'activité. Comment on peut nous payer à la fin du mois s'il n'y a pas de boulot? Au chômage, automatiquement au chômage, il n'y a pas moyen de faire même nourrir nos enfants. C'est ça les difficultés que nous passons ces derniers temps. On a commencé bien au mois de mars, le mois d'avril aussi, ça termine toujours comme ça. Il n'y a pas de boulot chez nous.
Tous disent attendre avec impatience la reprise des activités économiques, notamment le trafic aérien, pour relancer leurs activités. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude Loki. Monsieur Dieudonné Kassembo, un commentaire par rapport à cela?
Le secteur d'hôtellerie, c'est un des secteurs...
Le plus touché?
Qui a été le plus touché aussi, parce que vous comprenez, quand on prend cette mesure-là de fermer les hôtels, vous ne devez pas abandonner la sécurité. Donc vous devez continuer à assurer la sécurité de votre hôtel,
oui.
La maintenance de l'hôtel avec des charges fixes qui vont avec. C'est-à-dire il y a le courant pour assurer, parce que la sécurité, il faut qu'il y ait la lumière, il y ait de l'eau pour continuer à nettoyer. Et vous avez les avaries de stock. Parce qu'on prend la décision pour un hôtel sérieux ou des restaurants sérieux, il y a quand même des stocks. Comme les gens ne viennent pas, qu'ils vont avarier, et les gens, les propriétaires seront obligés soit de le jeter ou je ne sais pas comment, parce que il y a de ces hôtels, je prends des grands hôtels que nous avons dans la ville ici, mais ils vont parfois jusqu'au stock, jusqu'à 30 jours.
Oui.
Moi qui vous parle, je suis hôtelier. Donc, vous comprenez que pour ce faire, nous devrons lister tous les différents problèmes, les différents préjudices que nous avons subis, et que nous mettrons à la disposition de l'État, comme j'avais dit, que nous proposons.
Vous avez déjà envoyé des fiches à vos membres, ils peuvent déjà...
Cette semaine, les fiches partiront,
oui.
Et nous prendrons 3-4 jours, de manière que nous mettions ces informations à la disposition de l'État. Parce que c'est bien beau de demander que l'État intervienne, mais l'État doit savoir, il va intervenir jusqu'à quel ordre. Donc oui. C'est ça aussi l'intérêt que nous avons de demander à l'État de réorganiser le département des statistiques au ministère du plan, n'est-ce pas, le département des statistiques, parce oui. que c'est pas normal que nous puissions fonctionner dans un pays où il soit difficile de pouvoir mettre en place un programme donné, étant donné que les statistiques ne sont pas disponibles.
Et vous demandez aux PME qui ne sont dans aucune organisation de s'affilier.
De pouvoir adhérer. D'ailleurs, c'était une loi qui avait été prise par le gouvernement à l'époque de l'ancien Premier ministre Mouzito.
Oui.
Mais l'application de la loi n'est pas suivie. Parce qu'en fait, les gens attendent qu'on les oblige. Mais moi, je me dis, l'État a la force de loi. Il peut se permettre de pouvoir commencer à sanctionner les gens qui ne sont pas membres d'une organisation patronale. Voilà les conséquences.
D'accord.
Aujourd'hui,
oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, en charge des petites et moyennes entreprises. Merci.
Et opérateur économique.
Ah, voilà. Merci. Bon début de semaine et à la prochaine.
Merci beaucoup, jeudi, et bon début de semaine. Voilà.